De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains donc pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous n'aurons pas vu la vision du Dumbo de Tim Burton qu'on garde pour la semaine prochaine, tout comme Synonyme, le vainqueur du dernier festival de Berlin. On a délibérément évité Let's Dance, film surfant sur la mode hip-hop, pour se concentrer sur d'autres films en salle depuis le 20 ou le 27 mars. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Alors, vous... deux films chacun.
Alors moi, je vais vous parler d'un film cubain-américain, Sergio et Sergei, et également du premier film de Joel Edgerton, Boy Erased.
Et toi Manu?
Ben, un film uruguayen, Compañeros, et puis le nouveau film d'horreur de Jordan Peele, Us.
Celui qui nous avait fait Get Out. Et moi, je vous parlerai de Mon meilleur ami, film argentin de Martin Deus, et puis de Styx, film, cette fois-ci eh bien, allemand, de Wolfgang Fischer, où il est question eh bien, d'une navigatrice eh bien, voilà, qui prend les flots. Et ce sera l'occasion de jouer à un blind test spécial embarcation, voyage donc, sur les océans. Il faudra trouver le titre de 5 films qui se passent sur un bateau. Ainsi débute Cinérama. On commence par une plongée terrifiante dans un centre qui guérit l'homosexualité.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
On a rompu parce que je crois que c'est vrai. À mon sujet. Je pense aux hommes.
Réalisé par le comédien Joel Edgerton, Boy Erased est une adaptation des mémoires de Jahar Conley, un témoignage engagé contre les thérapies de conversion américaines qui font des ravages, notamment dans les zones les plus rurales. Alors les thérapies de conversion, eh bien, ce sont ces centres qui ont fleuri récemment, un peu partout dans le monde, même si ici l'histoire donc, se passe aux États-Unis, et dans lesquels quelques professionnels, mais alors qui ne sont ni psychiatres ni psychologues, hein, bien sûr, mais qui assurent pouvoir sauver votre âme, proposent à des parents désemparés de soigner l'homosexualité de leur enfant. Au programme Lavage de cerveau, grand discours vous expliquant que l'homosexualité est un choix, que vous n'êtes pas né ainsi et que vous allez pouvoir revenir dans le droit chemin, prière commune, interdiction de se toucher pour éviter toute tentation et jeu de rôle visant à exorciser sa colère intérieure. Lorsque Jared, jeune homme très croyant et fils de pasteur, découvre qu'il est attiré par les hommes, il accepte la proposition, ou plutôt l'ultimatum de ses parents et part dans l'un de ses centres, fermement décidé à changer.
Cela sera peut-être les 12 jours les plus durs, mais les plus gratifiants que certains d'entre vous connaîtraient. Mais nous n'avons qu'un seul devoir, nous ramener à Dieu et l'inviter à revenir en nous pour comprendre comment il voulait vraiment nous créer avant que tous ces morceaux soient dispersés. Alors je sais, le chemin jusqu'ici n'a pas été facile pour nombre d'entre vous, mais je vous promets une route plus calme maintenant que vous êtes là, parce que nous allons entreprendre un voyage extraordinaire, tous ensemble.
Jared va vite découvrir que les méthodes employées, soigneusement dissimulées aux parents qui payent très cher pour ce séjour, dérivent vers des humiliations en tout genre, des brimades parfois physiques et une véritable persécution des pensionnaires du centre. En se confrontant à l'envers du décor, il va ainsi comprendre qui il est et ce qu'il veut réellement. Joel Edgerton laisse ici le rôle de la figure paternelle à un Russell Crowe impressionnant à tout point de vue, hein, puisqu'il semble avoir pris une bonne vingtaine de kilos, et endosse quant à lui avec conviction le rôle de Victor Six, qu'on entendait juste avant, le gourou du centre de conversion. On retrouve également dans le film Nicole Kidman, parfaite en mère au foyer, peroxydée, pas si passif que cela, qui va progressivement choisir d'aimer son fils plutôt que Dieu, et Xavier Dolan, décidément à l'affiche partout en ce moment. Alors le film n'est pas exemple de défauts, hein, léger manque de rythme, usage de ralenti quelque peu excessif, pardon, temporalité un peu confuse qui nous perd dans les flashbacks. Il n'y a parfois pas suffisamment assez d'éléments pour nous faire comprendre à quelle époque se situe l'action et c'est parfois un peu déroutant. Néanmoins, le film est plutôt réussi, sobre, dur, mais pas non plus voyeur, assez intelligent dans sa lecture des rapports humains et surtout il met en lumière donc ses thérapies de conversion, un sujet encore bien mal connu du grand public et qui nous touche plus qu'on pourrait le croire. Les États-Unis n'ayant pas le monopole de la bêtise et de l'homophobie puisqu'il y a des centres de conversion en France aussi et partout en Europe et pour l'instant eh bien seul Malte les a officiellement interdits.
Merci Marine pour ces petites précisions. C'était Boy Erased et donc c'est en salle depuis le 20 mars. Un autre film, lui, qui est en salle depuis le 27 mars, c'est Campaneros. Le film d'Alvaro Brechner retrace la captivité des leaders Tupameros dans les années 70.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
En 1973, l'Uruguay bascule donc en pleine dictature. Alors trois opposants au régime, des guérilleros, sont incarcérés par le nouveau pouvoir militaire. Alors, parqués dans des cellules insalubres, ils subissent quotidiennement les maltraitances infligées aux prisonniers politiques. Alors, ils ne peuvent ni parler, ni dormir, ni manger correctement. Au fil des années, leur corps se dégrade, leur esprit vacille. Ils mènent une lutte acharnée pour continuer à vivre et éviter de basculer dans la folie. Alors, Compañero, c'est le récit, on va dire, édifiant de ces 12 années d'emprisonnement par trois figures incontournables de l'Uruguay, dont bien sûr José Pepe Mujica, qui est l'actuel président de la République d'Uruguay, ayant instauré donc une vraie démocratie. Alvaro Brechner, auteur du remarqué Saltant pour les pêcheurs en 2009, s'empare d'un sujet inattaquable sur le fond et sans aucun doute nécessaire, comme un rappel des pires exactions d'un régime totalitaire, avec, on s'en doute, la bénédiction du gouvernement actuel en place. La position critique s'avère délicate dans ce film citoyen s'adressant au plus grand nombre, si vous n'êtes pas bien sûr réfractaire aux scènes de violence autant physique que morale. Le scénario est par ailleurs assez bien construit, s'autorisant des allers-retours entre présent et passé pour briser la monotonie d'une histoire insoutenable. Hélas, les bonnes intentions ne suffisent pas. Encore faut-il avoir un regard singulier et plus simplement une forme à la hauteur. Alors, moins putassier que le très spectaculaire film qui était sur un sujet un peu similaire argentin, Buenos Aires 77 d'Adrián Caetano, mais se situant donc en Argentine, Compañeros souffre d'une mise en scène illustrative et surtout complaisante, ne nous épargnant aucun pensif inhérent au film à message. Bien sûr, le manichéisme à l'œuvre est logique, même au fond, je dirais qu'il est souhaitable, on ne va pas attaquer le film sur ce qu'il raconte. Mais pourquoi recourir à tant d'affiteries visuelles, à ces ralentis pénibles, à des effets de montage grossiers, à ces images ultra léchées desservant systématiquement le propos? C'est d'autant plus dommage que les comédiens sont tous sans exception remarquables, apportant une authenticité à des personnages crédibles à l'écran. Mais le film reprend un peu jusqu'à saturation toutes les scènes du genre, sans le moindre recul. En l'occurrence, les tortures et humiliations sous l'œil de militaires sadiques et échappées oniriques des prisonniers ravivant les souvenirs du passé. On a même droit à une scène qui rappelle un peu le Gladiator, où en fait, au lieu que ce soit Russell Crowe qui caresse les blés, là on a un personnage qui caresse de la mousse en pleine nature. Et c'est un peu grossier quand même. Donc l'insistance pénible à l'émotion facile, appuyée par une musique grandiloquente, ne déparait pas d'une production consensuelle hollywoodienne. Et finalement, c'est peut-être le but recherché du réalisateur, les yeux rivés un peu vers l'Amérique, préférant jouer la carte de la démonstration plutôt que la subtilité, afin d'attirer les regards sur sa capacité de cinéaste. Le film d'ailleurs a été sélectionné dans la catégorie des meilleurs films étrangers aux Oscars à Hollywood. Et je pense que ça fait un peu véhicule pour réaliser.
Une petite marche pour aller à Hollywood.
Oui, je pense que c'est un réalisateur qu'on retrouvera derrière soit des séries, soit vers un gros film bientôt.
C'était Compañeros, donc film uruguayen. Et maintenant, c'est un film allemand qui est en salle aussi depuis le 27 mars. Lui, il concourra à ce qui est l'équivalent des Césars allemands qui vont se dérouler au mois de mai. Et c'est une virée en mer qui tourne à la prise de tête. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Styx, film de l'allemand Wolfgang Fischer, entre dans le club très fermé des films nous racontant une traversée en solitaire sur un bateau. Le meilleur film de tous les temps sur le sujet est incontestablement, de mon point de vue, All Is Lost de J.C. Chandor avec Robert Redford, parti pour une croisière pépère en océan Indien, qui rencontre sur sa route un conteneur rempli de baskets qui éventre sa coque. De remède en tempête en rebondissement, voilà un film qui est une métaphore à peine voilée sur l'impossible solitude et notre économie mondialisée aux conséquences macabres. Styx aurait pu partir sur ce même modèle, mais le film ne commence pas sur la mer mais à Gibraltar. On surplombe la ville aux côtés de macaques qui, au ralenti, dans une lente chorégraphie, vont descendre de leur arbre pour aller crâner en ville. Puis, nous voilà plongés ensuite en Allemagne dans un monde violent à toute vitesse avec un accident de voiture et un conducteur à secourir. C'est pour y suivre le boulot de Rieke, la quarantaine qui est médecin urgentiste et qu'on voit la séquence d'après sur un quai choisir soigneusement tout ce dont elle a besoin pour faire une traversée entre Gibraltar et l'île de l'Ascension en plein Atlantique au niveau de l'Équateur. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'île de l'Ascension. C'est une île où Darwin a fait planter une forêt parce que c'était une île qui était battue par les vents au niveau de l'Équateur, très aride. Voilà, donc c'est ce qui intéresse la navigatrice. Alors, on le sent, Rieke a besoin de se retrouver seul à la manœuvre sans autre décision à prendre que celles qui vont lui permettre de garder son cap. Évidemment, une traversée en solitaire amène peu de dialogue, hein, d'autant moins que notre skipper ne tient aucun carnet de bord. Et comme le souhait du réalisateur n'est pas de nous faire un précis de la navigation, eh bien Styx ne sera pas une exploration romantique ni aventureuse des océans, mais un véritable drame. Le Styx, le titre donc de ce film, est dans la mythologie grecque, eh bien un fleuve qui coulait en enfer et dont les eaux froides étaient mortelles, tant qu'à faire. Alors, il y a bien une tempête, mais ce n'était pas non plus vers les exploits que le film nous emmène, hein, même si la navigatrice se révèle eh bien, plutôt talentueuse pour bien sortir de ce coup de grain. Ce qu'elle découvre après la tempête eh bien, est d'une nature politique et humaine. Il est difficile de le taire, hein, pour faire court, un vieux chalutier a lui aussi éprouvé la tempête, mais il n'y a à son bord alors, ni radio, ni fusée de détresse, ni gilet de sauvetage, juste des migrants qui ont fui une situation qu'ils jugeaient insupportable. Paradoxe pour cette médecin urgentiste, sauver des vies est son travail, mais seul sur l'océan, eh bien, ça n'est plus la même histoire. Elle compte donc sur les autres, et à la radio, eh bien on lui intime l'ordre de s'éloigner. Sa présence pourrait donner de faux espoirs et semer plus de confusion encore. Alors, nous pensions rester dans un film sans dialogue, mais le long métrage a viré de bord et puis parti pour être un film d'aventure. Eh bien, nous voilà plongés dans un film où le questionnement existentiel, l'éthique et le politique prend le dessus. Une question devient entêtante à mesure que le temps passe. Que faire? Et surtout, que faire quand les autres ne font rien? Si le réalisateur nous gratifie de quelques rebondissements, toute la tension réside dans l'attente, les postures des quelques personnages qui gravitent autour de ce voilier, dont certains ne sont que des voix, hein, entendues à la radio, comme ceux qui s'annoncent comme eh bien, les gardes-côtes, ne cessant d'affirmer que l'aide arrive, ou le commandant d'un paquebot, qui un peu plus tôt dans le film avait été intrigué par la route que prenait cette femme seule, et qui avait indiqué eh bien, qu'il était joignable en cas de coup dur. Et si les SOS sont bien entendus en mer par ce capitaine, eh bien, sa compagnie est très stricte sur l'aide aux migrants, lui dira-t-il. Bon, on a tout dit. Sans esbrouf, le réalisateur allemand s'empare d'un thème contemporain. Il ménage son spectateur en amenant une réflexion, mais va également le placer dans l'inconfort. Alors que les océans, les flots sont normalement eh bien, une voie d'évasion. Ici, c'est une voie menant vers l'enfer. La fin du film est dure, abrupte, glaçante. Peut-être à l'image de la politique des démocraties occidentales à l'égard des migrants. Voilà Styx de Wolfgang Fischer avec Suzanne Wolf qui est évidemment bon, de tous les plans et qui bien, incarne merveilleusement cette navigatrice partie seule en mer. C'est un peu l'objet de ce blind test. Alors c'est pas forcément seule en mer parce qu'il n'y a pas tant de films que ça où ils sont seuls en mer. Mais en tout cas, c'est des gens qui se retrouvent sur un bateau et qui se retrouvent sur les flots. On va écouter 5 extraits. Premier extrait, et c'est extrêmement facile.
Obéissez au monsieur, ma fille,
montez dans le canot, ces messieurs vont s'occuper de vous.
Une petite place pour un gentleman, messieurs, uniquement les dames.
Est-ce que nous sommes placés dans les canots selon la classe? Oh, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Oh, maman. La ferme! Vous ne comprenez pas? Cette eau est glaciale et il n'y a pas assez de canots. Pas assez pour tout le monde. La moitié des passagers de ce paquebot va mourir.
Pas la meilleure moitié.
Venez, Rousse, dans le bateau. Les premières classes sont placées juste ici.
C'est dommage que je n'ai pas gardé ce dessin. Il aura beaucoup plus de valeur demain.
Vous êtes un incroyable salaud.
Ça a été trouvé, évidemment.
C'était Titanic.
Et oui, donc le film, quand même, vu par plus de 20 millions de personnes en France. Et bon, ça, c'était la vision catastrophique hein, quand on se retrouve sur les flots. Mais il n'y a pas que ça.
Auriez-vous oublié votre promesse?
Soumise aux impératifs du service. Je ne peux en conscience nous retarder pour l'étude d'un pécari géant ou d'un iguane. Fascinant, je vous l'accorde, mais sans utilité immédiate.
Il y a là, je crois, une opportunité réelle de combler respectivement nos attentes. Cette île est longue et étroite. Votre route va nous obliger à la contourner. Or, je pourrais la traverser et me trouver
Stephen,
de l'autre côté.
Stephen, par expérience, je vous sais capable d'observer un nid d'oiseau vide pendant des heures.
J'avancerai sans m'attarder. Ne m'arrêtant ici et là que pour effectuer les mesures les plus importantes et par là même faire des découvertes qui assurément viendront enrichir notre savoir en histoire naturelle.
Nous aurions le vent et la marée contre nous, je vous l'accorderai. Ce n'est pas le cas et je me vois contraint de dire non.
Je vois. Ainsi, après tout ce temps passé au service de mon pays, je n'ai qu'à me résigner à prendre part à cette expédition guerrière sans porter de jugement. Je devrais me réduire à ignorer de pures merveilles et ne penser qu'à la destruction. Et encore, je ne dis rien sur la corruption du pouvoir.
Comptez-vous, docteur, vous vous égarez.
Non, Jack, non.
Et ça a été trouvé un capitaine et un chirurgien naturaliste. C'est
Master and Commander de Peter Ware.
Film sorti en 2003 qui a réuni presque 1 million de spectateurs en France. Troisième extrait.
La sortie est par là. Et c'est notre seule chance. Mesdames et messieurs, ne l'écoutez pas. Nous devons rester ici en attendant du secours et nous ne bougerons pas.
Du secours d'où?
Du commandant, peut-être. Il est mort. Toutes les personnes qui étaient sur le pont au moment où le navire a basculé sont mortes parce qu'elles se trouvent maintenant au-dessous de nous, sous l'eau.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est faux!
Non, c'est la vérité, imbécile prétentieux! Il n'y a personne de vivant à part nous. Et nous ne pouvons compter sur personne excepté sur nous-mêmes. C'est l'affaire de chacun de vous. Nous sommes tous concernés, tous! Ne perdez pas de temps, venez avec moi!
Je vous interdis de le suivre! Il ne connaît rien à ce bateau, il nous mène à la mort!
Le commissaire a raison!
Pas de vos affaires!
On retourne du côté de la catastrophe.
Je pense que j'ai retrouvé. Ça doit être l'aventure du Poséidon, oui. Et c'est la voix de John Hackman d'ailleurs.
Oui. En prêtre. Oui, je dirais, prêtre. De 2011, non, ce film.
1972. Voilà. Le film de Ronald Nim.
Oui. Mais merci pour cette précision.
Il est imbattable.
Il est imbattable. Plus de 2 200 000 personnes sont allées voir ce film catastrophe. Donc on retourne bien du côté de la solitude.
Moi, Yann Kermadec.
Oui, Yann.
Et toi? Ton nom?
Mano Ixa.
Écoute-moi bien, Mano Ixa. Tout ça, c'est ma course. Je te dis même pas dans quelle merde. Bon. Moi, je vais te prendre, toi, et je vais te déposer quelque part. Tu comprends? Par là. Toi? Par là. Tu sais nager, au moins?
Alors, c'est un film français, mais c'était moi qui l'avais chroniqué dans cette émission. Et
ah, c'est pas les Clusés? C'est pas le...
C'est Cluzet qu'on entend.
C'est Cluzet. Ah oui, je vois ce que c'est.
C'est très simple d'ailleurs, ça s'appelle En solitaire. Donc là, c'était facile à trouver. Et donc effectivement, il réalise une course en solitaire et puis à un moment, il a une avarie, il s'arrête au niveau des Canaries et puis là, il y a un migrant, un jeune Marocain, je crois, qui monte dans le bateau et donc la course en solitaire, eh bien, vire à n'importe quoi puisqu'il n'est plus seul. C'était un ratage quand même. Hein. C'était un film de 2013 qui avait réuni 659 000 spectateurs. Il y en avait 1 million pour ce dernier film qu'on entend.
Dieu sait pourquoi. On veut nous faire revivre les événements de 1941. Mais qui ça? Les Russes. Peut-être parapsychologie.
Excusez-moi, commandant, mais nous devons aussi considérer qu'il peut y avoir une autre possibilité.
Laquelle?
La possibilité que tout ce qui se passe soit la réalité.
C'est ridicule.
Peut-être. Pourtant, nous avons un certain nombre de preuves à l'appui. Il ne faut pas barrer d'un trait de plume une explication sous prétexte qu'elle n'a pas l'air de plaire.
Mais comment serait-ce possible, monsieur Lasky? Vous pouvez expliquer, vous, une chose pareille?
Non, non, ça non. Mais nous savons tous que la relativité du temps existe. C'est un phénomène qu'Einstein a démontré.
En théorie?
En théorie.
Si je vous suis bien, il suffit d'essuyer une bonne tempête et paf, nous voilà redevenus plus intelligents qu'Einstein.
Parce que vous appelez ça une tempête, vous. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai connu.
À rien de ce qu'aucun d'entre nous a connu.
Certaines forces ne commencent que maintenant à être réellement étudiées et comprises. J'entends par la science, non la superstition, ce qu'on appelle les trous noirs, l'antimatière, l'espace courbe. Ce sont des notions aussi insolites que l'électricité au Moyen-Âge ou que ce bâtiment en pleine guerre de 40.
Et ça a été trouvé, c'était
Nimitz, Retour vers l'enfer. Donc, c'est un film de Don Taylor.
De 80. Avec Kirk Douglas et Martin Sheen. Voilà. 1 million de spectateurs. Donc, pour ce film, et ainsi s'achève ce blind test. On retrouve l'actualité du cinéma. Après Get Out, Jordan Peele revient sur le terrain du thriller horrifique et politique avec Us.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Depuis qu'on est arrivé, il y en a de plus. En plus, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de nous.
Alors le cap du second long métrage s'avère souvent difficile, surtout quand on a commencé donc par un coup d'éclat. Get Out a imposé sur le devant de la scène un nouveau venu, Jordan Peele, qui dynamitait de l'intérieur un genre en voie d'épuisement, mêlant alors terreur pure et discours politique. Alors la fable inquiétante du cinéaste puisait toutefois sa grande inspiration dans un roman d'Ira Levin, Les femmes de Stepford. Vous remplacez les femmes serviles par des noirs et vous obtenez le même sujet, passant alors du pamphlet féministe à celui d'antiraciste. Alors, première bonne nouvelle, Jordan Peele poursuit son incursion dans le cinéma de genre, là où d'autres auraient cédé aux sirènes hollywoodiennes en acceptant une production plus respectable. Deuxième bonne nouvelle, Peele laisse de côté, alors du moins en apparence, la réflexion politique et fonce tête baissée dans les arcanes de la série B horrifique, immersive et décomplexée, quitte à désarçonner le public l'ayant porté au nu. Déjà, même si le nom de Jason Blum figure au générique, il ne s'agit pas d'une production Blumhouse. Jordan Peele, auteur complet du film, en est à la fois le scénariste, réalisateur et producteur. Alors cette volonté de contrôle absolu se traduit par un film débridé, déstabilisant, alors parfois incohérent et pourtant sacrément euphorique. L'argument est par ailleurs imparable, instaurant dès les premières minutes une atmosphère trouble parfaitement gérée. Le prologue, vraiment addictif, hein, nous montre une enfant, Adélaïde, dans une fête foraine avec ses parents. Elle échappe à leur vigilance et se retrouve dans une sorte de train fantôme, lieu quasi symbolique, traduisant pleinement les intentions du cinéaste. Alors là, par un plan fugace de toute beauté, elle se retrouve face à face avec son double. Retour au présent, Adélaïde, la trentaine, retourne dans sa maison d'enfance avec sa petite famille, son mari Gabe et ses deux enfants Zora et Jason à Santa Cruz sur la côte californienne pour les vacances. Alors toujours affectée par son traumatisme d'enfance, la jeune femme éprouve un sentiment de malaise dès son arrivée lié à d'étranges coïncidences lui rappelant l'événement passé irrésolu. Alors, elle pressent qu'un malheur va s'abattre sur sa famille et elle n'a pas tout à fait tort. Un soir, quatre personnes, immobiles, se tiennent par la main dans leur allée. Les Wilson vont alors affronter les plus terrifiants des croque-mitaines. Donc, on laisse deviner qu'est-ce que ça peut bien être.
Mais vous êtes qui ?
Ils sont nous.
Ils sont exactement comme nous. Ils pensent comme nous. Ils savent où on est. Il faut partir le plus loin possible. Ils s'arrêteront que quand ils nous auront tués. Ou qu'on les aura tués.
La mise en place confirme vraiment le talent du cinéaste en termes de gestion de l'espace et du temps. Il sent même son nouveau bébé au-dessus du précédent. Get Out s'appuyait sur une solide réale, mais sans originalité particulière, obéissant au cahier des charges imposé par Blum. Alors, Us bénéficie au contraire d'une mise en scène inspirée et beaucoup plus personnelle, même si l'influence de John Carpenter imprègne ce film de la première à la dernière bobine. Alors comme chez l'auteur de Fog, on retrouve cette science du cadre, notamment lors des plans larges exploitant à merveille un décor insolite derrière la banalité du soleil californien et des résidences bourgeoises. Durant sa première moitié, Us s'érige en modèle du genre tendu et d'une efficacité diabolique, porté par des interprètes remarquables et une photo nocturne splendide, alors laissant toujours le trouble s'installer, comme dans des vieilles productions de Val Lewton, notamment La Féline. Alors saluons aussi la qualité du montage qui sait parfaitement utiliser l'invisible, le hors-champ comme facteur de stress. Alors seul bémol, l'humour systématique qui instaure une distance, une décontraction dont le film se serait parfois bien passé. Alors Jordan Peele rappelle au détour de quelques vannes et situations burlesques d'où il vient, son passé quand il animait des émissions comiques. Je pense que c'est un petit défaut dans le film, même si l'humour est quand même assez efficace. Mais là où le film risque de ne pas remporter les suffrages du public réside dans la progression d'un scénario qui part un peu dans tous les sens au bout d'une heure, alors multipliant les pistes passionnantes et souvent inexploitées. La tentative de rationaliser un sujet pourtant passionnant articulé autour des doppelgangers se prend les pieds dans le tapis. Alors les explications manquent de cohérence et le twist final ne fait qu'en confirmer des problèmes d'écriture d'un scénario qui est quand même ébouriffant, qui se ferait, je dirais, un passage du côté de la série B. Et d'ailleurs, ça ressemble aussi au cinéma d'un cinéaste qui vient à peine de nous quitter hier, qui s'appelle Larry Cohen, qui était le créateur de la série Les Envahisseurs. Donc c'est vraiment un film très particulier qui est vraiment réjouissant malgré toutes ses imperfections. Voilà, c'est certainement l'un des films les plus euphorisants et tendus qu'on ait vu dans le genre, ce qu'on appelle l'homme invasion, absolument passionnant, qui laisse au moins aux spectateurs le soin de décrypter la métaphore sociale. Parce que quand je disais qu'il n'y a pas vraiment de politique, il y en a, mais ça vient après. Qui est un peu distillé comme ça en filigrane, on va dire celle d'une Amérique cachant un peu ses propres démons sous la surface un peu d'un paradis comme ça factice. Mais il y a beaucoup de pistes, même sur le plan idéologique, mais ça ne vient pas à la première vision. À mon avis, c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois.
Du même avis, Marine, pour faire vite, peut-être.
Tout à fait. Alors après, oui, c'est compliqué en fait d'en parler sans trop en dévoiler aussi, mais je partage quand même relativement l'avis de Manu. Et je dirais même en fait que je l'ai vu hier et en fait depuis ce matin, j'y repense, et plus j'y pense et plus quand même je suis assez satisfaite du film. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'en suis très satisfaite. Vraiment.
Ça va le toucher. Eh bien, merci. Les tourments de l'adolescence, les interrogations sur l'amitié en Patagonie, c'est mon meilleur ami.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Film sensible sur l'adolescence, mon meilleur ami se joue des stéréotypes sur cet âge de la découverte. Nous sommes en Patagonie, autant dire loin de tout, en bas de l'Argentine. On y suit Lorenzo, un adolescent qui est le dernier à être choisi pour faire partie d'une équipe de foot. Alors on se dit que ça pourrait être le début d'une longue et lente agonie pour lui. Eh bien non, il s'accommode très bien de ne pas être le chouchou des footballeurs. Lorenzo est d'ailleurs plutôt sociable, quoique un peu solitaire, vif et intelligent. Et quand on observe sa famille, eh bien on s'aperçoit qu'elle est très ouverte. Père comme mère sont sans cesse dans le dialogue avec leurs enfants. une sorte de famille idéale qui va devoir quand même eh bien, faire face au changement. L'arrivée de Kaito, le fils d'un ami de la famille qui a de gros problèmes. Alors on apprendra plus tard de quoi il s'agit. Bon, c'est des vrais gros problèmes. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est aux antipodes de Lorenzo qui est chargé de veiller sur lui. Alors si l'un est studieux, posé, respectueux, limite chétif, Kaito est expansif, tatoué, vigoureux et frondeur. Mais ces deux mondes eh bien, peuvent bien communiquer. C'est l'entreprise du réalisateur Martin Deus. Faire cohabiter deux mondes, deux univers, deux appétits, deux envies et deux vies. Cette rencontre improbable va être saisie comme une chance par les deux adolescents qui vont pouvoir se nourrir l'un l'autre. À mesure que le film avance, la relation qui se joue entre les deux adolescents eh bien, s'affirme. La finesse de la réalisation permet de laisser suffisamment de pistes aux spectateurs pour qu'ils soient aux prises avec les tourments de Lorenzo dans une sorte de voyage intérieur avec un questionnement sur la sexualité, sur le sens du bien ou du mal, la responsabilité, la rédemption ou encore eh bien, sur l'amitié, où est la limite finalement. Mon meilleur ami avance à pas lents, constamment baigné des paysages de la Patagonie quand on est à l'extérieur. Alors ça, c'est merveilleux. Un territoire empli de solitude quand même. Le récit alors, aurait gagné peut-être à être moins lisse, à dessiner des contours plus abrupts des personnages. Mais ce qu'on retient de Mon meilleur ami, qui est un premier long métrage, eh bien, c'est l'histoire d'un garçon qui se croyait seul et qui d'un coup eh bien, est submergé par la confusion. Alors celle que lui laisse un autre. Alors on ne saura vraiment jamais ce que représente Kaito pour Lorenzo. Est-ce que c'est un copain, un ami? Après tout, ils se sont livrés des secrets, un amant possible. Ce qu'on voit, c'est que l'adolescent confronté à une personnalité différente est troublé, autant capable de colère, de dégoût, d'amour ou de fascination. On reconnaît au réalisateur Martin Deus la volonté de livrer un autre traitement sur l'adolescence que celle de la rupture, de la crise, de l'incompréhension ou de la destruction. Alors toutefois, le film est peut-être un peu trop sage et sensible pour marquer, mais il a pour lui une intelligence du scénario, une clarté de la mise en scène, puis ça fait du bien d'être en Patagonie, voilà, c'est un film quand même plutôt doux. Mon meilleur ami donc de Martin Deus.
Vos sos justo en un mundo injusto, lo que más busco sos
tu. Sos re nervo.
Separado de vos, ya no quiero seguir.
¿Sabes nadar?
Allez, on fait bien un passage vers l'espace, ou au moins on va parler d'un cosmonaute russe oublié
vers
dans l'espace.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Oui, donc ce sera l'espace et Cuba avec Sergio et Sergueï de Ernesto Daranas. Nous sommes en 91, le mur de Berlin vient de tomber. Et Sergio, professeur de marxisme à la Havane et féru de radio, utopiste notoire et socialiste convaincu, a bien du mal à s'imaginer que le monde idéal pour lequel il s'est battu est sur le déclin. Lui qui a fait ses études à Moscou et qui se sent naturellement proche du peuple russe de par l'idéologie communiste qu'il partage, va entrer par hasard en contact avec un cosmonaute russe, Sergueï, que l'on tarde à faire redescendre de sa mise en orbite et qui se sent un peu seul du coup dans l'espace. Sergio, qui est en quelque sorte prisonnier de son île et de ses dernières illusions politiques, va réussir à s'évader et à côtoyer les étoiles grâce à leur conversation au travers d'un système de radio amateur. L'occasion pour eux de se découvrir et de réfléchir sur leur époque et sur le système finalement qu'ils ont contribué à mettre en place. Film cubain et américain, oui maintenant c'est possible, Sergio et Sergueï peut se targuer d'une jolie distribution internationale, hein, comportant entre autres Ron Perlman et d'une prénomination pour l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui était plutôt attendu hein, au vu de l'aspect très propre et très feel-good movie de l'ensemble. Sergio et Sergueï s'apparentent à ces comédies que l'on pourrait qualifier du désenchantement, à l'instar de Goodbye Lenin ou de La mort de Staline, ces comédies qui évoquent la fin des utopies politiques et préfèrent en rire. Alors certes, on n'est pas ici clairement dans l'hilarité, hein, même si le ton reste léger. Laissant parfois le champ à de jolis passages décalés, voire oniriques, le film ne cherche pas à enchaîner les gags, d'ailleurs il n'en a pas vraiment. Il préfère pointer du doigt, souvent dans le registre de la farce mélancolique, les paradoxes et les aberrations des systèmes totalitaires de l'époque. Même si le film opte pour un parti pris plutôt poétique, puisque la répression, la surveillance par le gouvernement ne sont pas montrées sous leur aspect le plus dur et le plus réaliste, il reste néanmoins inspiré de faits réels, mais qui n'ont jamais été prouvés, à savoir qu'en 1991, des radioamateurs ont réussi à entrer en contact avec des astronautes russes, en passant par donc des émetteurs de radio amateurs. L'ensemble aurait gagné à être un petit peu plus rythmé, hein, certaines pistes ne sont pas suffisamment explorées, mais ça reste une jolie petite histoire qui permet aussi de rappeler certains aspects de la grande.
Voilà, donc les deux, Serge, les deux
Serge. Sergio et Sergueï.
Ainsi s'achève cette émission.
C'est fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule!
La semaine prochaine, il y aura une interview.
Oui, Marie. Ce sera José Garcia, Éric Lavenne et Alexandra Lamy pour Chamboultou.
Et il y en aura sûrement une deuxième avec le réalisateur de Tel Aviv on Fire.